L'aventure de la vie et les tomates farcies. Comment ces deux lignées paysannes fusionnèrent-elles? Très prosaïquement, mes futurs parents se rencontrèrent à la piscine municipale d'une petite commune, piscine creusée dans les marais, assez rustique et éloignée de nos centres nautiques actuels, puisque les serpents d'eau glissaient entre les nageurs. Il faut croire que mes parents arrivèrent à faire abstraction des peu agréables reptiles, puisqu'ils tombèrent amoureux. Mais je n'en sais guère plus. En octobre 1962, ils se marièrent dans l'église Saint-Pierre de Gex. Ma mère, jeune femme brune et sérieuse de 20 ans, à la dentition parfaite, était encore très juvénile, ravissante de grâce dans sa robe de mariée. Sa beauté n'avait rien à envier à celle des actrices de cinéma de son époque. Mon père, homme roux de 31 ans, avait, lui, une expérience de la vie incomparablement plus développée. Il avait vécu plus de 10 ans à l'étranger, affronté à des situations limites et touché du doigt l'incroyable diversité de l'âme humaine. Ils s'établirent à Lyon, puis au Chambon-Faugerolles, cité minière de la Loire, à cause du métier de fonctionnaire de police de mon père. Maman travaillait comme secrétaire dans les assurances, responsable d'un pôle de dactylos plus ou moins chipie et dissipé, qui pour certaines la jalousait avec ardeur, et nourri dans une cantine minable de gratin dauphinois au lait coupé d'eau, qui l'aidait bien malgré elle à garder la ligne. Je me fis attendre quelques années. Ma mère désespérait presque. Puis, finalement, je me décidai à sortir dans le vaste monde le 8 avril 1967, à Saint-Étienne, la fameuse ville footballistique, et je fus baptisé le 6 mai. J'étais un nouveau-né tout rouge, chauve et menu, très doué pour réveiller les dormeurs incorrigibles et revendiquer mes droits de façon démonstrative. Presque toujours malade, je suivais les traces de mon père, puisque celui-ci me fit faux bond à ma naissance. En effet, alors hospitalisé pour une pleurésie loin de moi, et donc de maman, vous l'aurez compris, notre sort étant lié à cette époque, il menaçait de quitter ce monde au moment même où sa progéniture y entrait. Cela ne dut pas être facile pour ma mère. Par quelles angoisses et quelles questions passa-t-elle alors? On l'imagine, mais elle ne nous en a jamais parlé. Petite fille palichonne et babillarde, aux couettes blondes assez rigolotes, je me développais, paradoxalement, sans faire de bruit ni de vagues. Pourtant, ma première vocation fut celle de clown. Dans mes premières années, conduite au Cirque Cny à Genève, je me sentais éperdu d'admiration devant ces messieurs, capables de s'affubler d'un si ridicule nez rouge pour apporter un peu de joie à leurs semblables. La tristesse me semblait à l'évidence l'ennemi public numéro 1. Ne recouvre-t-elle pas le monde d'un abominable linceul, et ne plisse-t-elle pas les fronts comme de vieux chiffons? Étrangleuse en série qui serre les gorges et coupeuse de mains, qui rend les hommes incapables de tout bien. Je dessinais à cette époque des clowns variés, tout en posant des questions à tiroir qui laissaient les adultes ou les acculaient à avouer leur ignorance en leur faisant perdre la face. J'en ai gardé la conviction qu'aucune question n'est stupide et qu'il faut toujours, sauf quand on conduit, répondre aux interrogations d'un enfant. Aux entrelacs de rotin de mon petit lit, la médaille miraculeuse de la rue du Bac avait été cousue par un joli fil bleu ciel. « C'est pour que Marie te protège », m'avait-on expliqué. Et je regardais sur cette mini-icône de métal cette femme debout sur la terre et dont les mains lançaient des rayons. De l'autre côté, beaucoup de signes, mystérieux pour moi à cette heure, étaient gravés. Un jour, désireuse de lui faire une beauté, émue par un irrésistible élan artistique, je la badigeonnais très fière de moi, avec le rouge à lèvres orange brique de ma mère. Je n'ai pas oublié non plus que le soir, au coucher, une femme dans le noir me faisait prier le « Je vous salue Marie ». Je m'associais avec bonne volonté aux paroles que je comprenais à demi, mais une expression me semblait hautement déplacée et me laissait perplexe. « Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni ». Dans ma tête blonde ensommeillée, je me demandais, tout en visualisant la corbeille à fruits de la cuisine, quel rapport y a-t-il entre le petit Jésus, le bébé de Marie, et une banane, une orange ou une pomme ? Cela me paraissait rabaisser la dignité humaine à bien peu de choses. En transposant mon problème et en élevant le débat, on pourrait dire, bien sûr, que le mystère de l'Eucharistie où l'homme absorbe Dieu m'était proposé en filigrane. Car qu'est-ce que ce petit bébé dans la crèche, sinon un bébé divin qui repose, minuscule, dans une mangeoire pour animaux et aspire à être mystérieusement assimilé par nous comme une vulgaire nourriture afin que nous devenions lui. Mais je n'en étais pas là. Nous avons déménagé ensuite, vers ma deuxième année, pour Bourg-en-Bresse, dans un petit immeuble au cœur d'un quartier tranquille. Il était proche de l'école où l'on nous initiait sans attendre à l'allemand. Je me rappelle la dame corpulente de l'entrée qui me surnommait le petit oiseau bleu, sans doute à cause de mes pépiments incessants et de la couleur dont ma mère me revêtait de préférence. Me reviennent aussi les images d'une serre et du mur terriblement élevé d'une caserne voisine. Autre flash. Un jour, dans la montée de mon immeuble, avait retenti un hurlement déchirant. Je m'étais senti glacé d'angoisse. On m'avait expliqué qu'il s'agissait d'une fillette de mon âge qui s'était brûlé les mains à la porte du four. Sa mère cuisinait des tomates farcies et la fillette, malgré l'interdiction parentale, avait touché la porte brûlante. On en profita pour me chapitrer sur l'obéissance demandée aux enfants. Ce fut mon premier contact conscient avec le mystère du mal physique et des accidents qui surviennent dans le monde. Pétrifié, je me mettais facilement à la place de la fillette, d'autant que je raffolais des tomates farcies. Le châtiment me semblait si disproportionné par rapport à la faute, qui pouvait du reste être imputable à un élan irréfléchi. Les hurlements ne cessaient pas pourtant. Je compris ce jour-là que j'étais une aventurière dans un monde redoutable où la moindre erreur enfantine peut être punie d'un châtiment cruel et durable. Je compris un peu que notre volonté n'avait rien de magique et que ce que nous redoutions ou que nous n'attendions même pas pouvait survenir et nous marquer à jamais. Je pressentis que les choses ont leur logique propre et que les lois physiques n'ont rien à faire de notre opinion ou de nos désirs personnels, que n'importe quel accident peut se présenter, que les accidents ont apparemment une inventivité sans limite. J'avoue qu'un tel monde ne me semblait pas attirant du tout, et je me proposais d'approfondir tout cela pour voir si cette existence dans laquelle j'étais jeté était si souhaitable.